Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast journalier sur l'UTMB, la préparation. Alors aujourd'hui on en est à jeudi J-15. Et aujourd'hui il se passe pas grand chose, parce que comme hier j'ai repos. Contrairement à hier, aujourd'hui je vais bel et bien faire ma séance de gainage, je vais pas la faire sauter. Étant donné que j'ai très bien dormi. Et puis je vais bien sûr aller au lagon, faire du sauna, du hammam, du bain froid, boire des tisanes pour me détoxifier et ne pas attraper le coronavirus. Mais bon, en gros, voilà, ça va tourner court. Je vais m'étirer ce soir, puis voilà, quoi, tu vois, le podcast pourrait être terminé. Donc plus intelligent que de te dire à quel point je vais glander aujourd'hui. Après, je travaille, bien sûr, puisque il faut que je prépare la course au micro de ce week-end, étant donné que d'habitude, je fais ça le lundi. Mais là, lundi, tu vois, j'étais occupé à faire 11 heures de vélo, donc j'ai pas pu. Le team try, je viens de voir, d'ailleurs, ce matin, je me connectais sur la plateforme Un Autre Sport pour s'inscrire. 450 inscrits, donc on a fait un petit plus 100 depuis dimanche dernier, ça c'est bien. Bon, les gens ont vu que il allait faire beau, hein, donc bah voilà, n'hésitez pas à venir. En plus, avec les trois distances, là, ça va être un plaisir. Ouais. On va y aller pour répondre à quelques questions que j'ai reçues, nombreuses. Première question avec Séverin, qui me demande si je vais réappliquer un petit protocole pour la nuit, pour survivre à la nuit, pour la passer du mieux possible. Alors, ce que je vais faire, Séverin, c'est que pour la nuit, donc comment rester éveillé? Alors on peut prendre de la cocaïne, mais après on est positif en cas de contrôle antidopage. Si vous êtes dans le milieu de peloton, c'est pas très grave, vous pouvez le faire. Mais moi à l'avant, c'est possible que j'en ai un. Donc je pourrais pas prendre de cocaïne, malheureusement. Je vais devoir faire avec les moyens du bord. Alors les moyens du bord, lesquels sont-ils? Bah, essayez de bien dormir les jours d'avant. Alors ça... Ça me pose pas trop de soucis, parce que je peux m'endormir à 21h30. Donc ça me gêne pas trop. En plus, bah voilà, les jours d'avant, j'aurais fini d'animer le samedi. Voilà, donc ma dernière nuit qui va pas être top top, c'est 6 jours avant l'UTMB. Donc après, j'ai samedi soir, dimanche soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai 6 nuits qui vont être normalement tout à fait satisfaisantes. Donc, déjà, voilà, ça, un bon sommeil. Et si vous, vous avez un boulot stressant ou une connerie comme ça à faire dans la semaine de l'UTMB, bah voilà, vous partez déjà avec un désavantage. Il faut déjà bien dormir. Après, un autre truc à faire, c'est au niveau de la bouffe. Si tu veux rester éveillé la nuit, il va falloir manger assez protéiné et assez salé. Donc ce que je vais faire pour la nuit, je vais manger, on l'a pas encore défini avec Seb, mais globalement la tendance ça va être ça. Je vais être uniquement sur mes petites baous salées. Donc là, moi, je prends les betteraves, là, j'aime bien. Et on a deux ravitaux nocturnes. Alors, non, celui de Contamine, il sera pas nocturne, du coup, cette année, vu qu'on va partir à 17h. Donc, on n'en a qu'un seul. Il est à Courmayeur. Là, Courmayeur, j'aurai une... Alors, finalement, je suis pas tout à fait sûr de prendre ma purée de patates. Je vais plutôt me faire un petit sandwich avocat viande de grison, parce que le problème de la purée de patates, en fait, c'est que je peux pas l'emmener avec moi. Et j'ai pas envie de la rendre extrêmement liquide en ajoutant de l'eau, hein, c'est très simple. Pour la mettre dans une flasque, ça va me faire chier. Tandis que le sandwich, en fait, je peux repartir de Courmayeur avec le sandwich à la main. Étant donné que pendant 3 bornes, on est dans la ville après la ravito. Donc je pense plutôt me diriger vers cette solution qui va me faire gagner 3-4 minutes, quoi. Alors après, reste à définir la composition exacte du sandwich. Je vais écraser de l'avocat et je vais mettre ouais, du jambon. Alors souvent les gens citent la viande de grison parce qu'elle est de meilleure qualité. On verra, je vais affiner ça, mais je vais prendre un truc salé, tu vois, mais à emporter. Hein, je vais faire un click and collect à Courmayeur et je vais essayer de m'arrêter le moins possible. J'ai regardé hier mes temps de passage en 2019. Bon, alors à Courmayeur, ça va, je suis resté 6 minutes. Mais alors après, c'est parti un peu en couille déjà à Champey, à Trian, je suis resté un quart d'heure, putain, ça sert à rien. Donc voilà, pas mal. La Foulie, putain, la Foulie, je suis resté longtemps. Bon, j'avais bu une soupe, mais bon. Donc voilà, des trucs comme ça. Je n'exclus pas aussi, parce que vu qu'on a trois bornes de ville, à prendre justement bah, une soupe dans une petite bouteille, tu vois. Et puis je jette la bouteille à la sortie de la ville dans une poubelle, tu vois. Bon, trois bornes de ville, je vais bien trouver une poubelle. Donc repartir, voilà, avec un truc dans chaque main pour minimiser leur invito. Et le but du jeu, bah, je te le dis, ça va être de manger salé et protéiné. Alors, évidemment, si tu tombes dans l'extrême de bouffer toute la nuit du jambon sur lequel t'as rajouté du sel, ça va très mal se passer. Voilà, quand je te dis que je vais manger ma baou salée, donc c'est betterave, je me rappelle plus ce qu'il y a avec. Il n'y a pas trop de protéines dans cette baou, mais elle est salée. Alors après, la protéine, elle va arriver aussi avec la barre abricot de baou. Alors celle-là, elle n'est pas salée. Mais c'est pas très grave, il faut pas non plus doser comme un malade le sel. Et puis en fait, c'est facilement remplaçable parce que au Contamine, je vais repartir avec deux gourdes chargées en Saint-Yorre. Pas à 100%, mais plus que d'habitude. Et à Courmayeur, pareil, je vais repartir avec deux, ouais, pardon, flasques chargées en Saint-Yorre vraiment, vraiment height, quoi. Et Seb, elle n'aime pas ça, je le sais, mais j'aurais pas le choix sur les ravitaillements. En fait, je n'aurai pas de. Il faut que je regarde s'il y a de la ceinture sur les ravitaux de l'UTMB. Ou une boisson gazeuse un peu salée comme ça, mais la ceinture est vraiment salée. Ça, je vais regarder, la liste est disponible sur le site. Si c'est pas bon, je vais prendre des électrolytes. Mais bon, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment la moins bonne qualité possible des minéraux qu'on vous refile dans ces boîtes avec un packaging absolument fabuleux. Donc il faut éviter en temps normal, mais c'est toujours mieux que zéro. Donc s'il n'y a pas une bonne eau gazeuse à dispo sur les ravitaux nocturnes de l'UTMB, je ferai ça. Voilà, Séverin. Alors après, il y a la question de la caféine. Alors écoute, même ce matin, je me pose encore la question. Je ne pense pas que je vais faire cette petite privation de café de 2 semaines avant la course. Parce que Seb me disait justement qu'en fait, ça relève plutôt de la croyance que de l'efficacité. Et mine de rien, bah, me refuser tous les jours quelques cafés, ça me fait un peu chier, tu vois. J'en ai consommé un là juste avant le podcast, en consultant quelques mails, ça m'a fait très plaisir. Et ça me fait chier demain de le refuser pour des croyances vaudou, en fait. Et j'ai vu sur les départs nocturnes là, ces derniers temps que ça ne changeait rien. Par contre, pendant la course, je vais continuer à consommer de la caféine en étant dans une limite relativement haute avec les gélules que j'ai prises sur Nutrimuscle, la green caféine. Et depuis que je la consomme, eh ben, je n'ai jamais eu de déshydratation. Donc, comme quoi, il y a plusieurs formes de caféine et plus vous allez en prendre une de bonne qualité, moins vous aurez de soucis. Parce qu'en 2019, j'en avais une de très mauvaise qualité. J'avais fait un peu le raccroc. J'avais acheté la moins chère qui était en promo. Et bah, bizarrement, tac, deux déshydratations. Et depuis que j'ai la Nutrimuscle, qui n'est pas non plus hors de prix, tout va bien. Donc je vais faire ça. En fait, je vais continuer à avoir cet apport régulier en café. Alors, peut-être que je l'ai diminué un petit peu, tu vois. Pourquoi pas diviser ma consommation par deux. Mais privé, je ne pense pas. Je vais quand même en discuter avec Seb demain, si jamais on change d'avis. Mais a priori non. Et donc pendant la nuit, toutes les 4 heures, une gélule, voilà, toutes les 4 heures, 100 mg de caféine, tac, 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 tac. Voilà un petit peu pour le protocole de la nuit, qui est au final relativement simple. À ceci près qu'il demande un peu d'organisation, tu vois, pour l'assistance à Courmayeur, voilà, ce sera assez précis. Il faut que je trouve de quoi, ouais, trimballer la soupe, mais je te le dis, une petite bouteille que je vais dégager à la fin de la ville, voilà. Et puis après, Séverin, il me demandait aussi, est-ce que tu prépares tes pieds, donc en mettant du citron, de la crème hydratante, tout ça. Alors ce que je fais, c'est qu'en toute simplicité, le soir avant de me coucher, je mets de la Nox sous mes pieds, donc ça les réhydrate un petit peu. Et c'est pas mal parce que dès que je suis arrivé là, ici en altitude, tu vois, j'avais la plante des pieds très très sèche, limite c'était du béton. Et là, ça va, ça a un aspect plutôt normal. Il reste 2-3 coins un peu secs là, à côté du gros orteil, là, tu vois, c'est un peu sec. Et là, sous la plante du pied aussi. Et j'avais une petite. Oh putain, j'avais une petite crevasse là, mais elle est en train de se boucher, donc il n'y a pas de souci, la peau se reforme, ça va être nickel. Donc voilà, j'ai de très jolis pieds à l'heure actuelle. Donc je mets la noque le soir avant de me coucher. Voilà. Pendant un mois en fait, je fais ça à Tine, c'est mon rituel. Je mets pas de citron. Parce que ça, c'est plus pour tanner la peau du pied. Et ça va à l'inverse. Alors un podologue pourra peut-être me reprendre, mais dans ma logique à moi, ça va à l'inverse d'hydrater le pied. Tu vois, de tanner. Ou alors peut-être tu en mets un peu le matin, puis le soir tu remets ta crème hydratante. Écoute, je le fais pas. Après, c'est bien gentil hein, de mettre des crèmes, tout ça, tout ça. Mais pour préparer un pied correctement à un effort long comme ça, finalement il n'y a qu'une seule solution qui marche bien, une solution ancestrale. C'est s'entraîner. Passer du temps dehors, passer du temps à marcher. Voilà. D'ailleurs, pourquoi j'ai eu des bonnes petites ampoules au Swiss Canyon Trail? Bon, déjà parce qu'il pleuvait dès le début. Et c'est vrai que quand tes pieds ils macèrent dans l'eau toute la journée, c'est quand même dur. Mais aussi, tu vois, je me dis un truc. C'est que j'avais coupé un mois, contre ma volonté, hein, de mi-mars à mi-avril, vu que j'étais tombé, et j'avais pas animé, parce que le gouvernement m'empêchait de travailler. Et ben, du coup, j'ai passé beaucoup moins de temps que d'habitude à marcher, piétiner, etc. Et je pense que je suis arrivé au Swiss Canyon Trail avec un petit peu une peau de bébé, tu vois. Ce qui n'est pas du tout le cas là. Donc quand j'ai fait mes 13 heures de trail il y a 10 jours, j'ai pas eu de soucis. Si j'ai eu une bulle blanche là sous un orteil, hop, je l'ai éclaté, c'était juste de l'eau, impeccable. Donc ouais, là tout va bien parce que bah, j'ai recommencé à animer régulièrement, parce que je marche ou je cours beaucoup en ce moment, enfin dans le dernier mois en tout cas. Donc je pense que naturellement, tu vois, ça forme la peau de ton pied. Et c'est facile à comprendre, c'est un peu comme, je sais pas si t'avais vu le gars qui court pieds nus. Je sais qu'il est vers les Pyrénées, vers la Rune. Bon, évidemment, si moi demain je me mets à courir pieds nus, ça va très mal se passer. Mais lui, en fait, quand il a commencé à courir pieds nus, il était gamin, il jouait dehors pieds nus. Et puis petit à petit, il est resté pieds nus. Alors me demande pas pourquoi, il devait quand même être bizarre. Mais au bout d'un moment, la peau de son pied, elle s'est. Il a pas la même que nous, quoi, en fait, tu vois? Donc lui, en fait, quand il va courir pieds nus, pour nous, ça équivaut à courir en chaussures minimalistes, tu vois? Donc évidemment, il fait pas des 100 bornes pieds nus, mais il fait quand même des courses de 20-25, hein, c'est un sauvage. Hein. Et bah, tu vois, c'est pareil pour préparer tes pieds, et c'est ce que j'avais pas trop fait l'an passé à l'échappée belle, c'est qu'en fait, il aurait fallu que je fasse énormément de randonnées, voilà, parce qu'il faut pas non plus. Le but c'est pas de se fatiguer en fait, le but c'est de travailler la peau de ton pied. Donc pour l'échappée belle, voilà, le truc que je ferai le jour où je referai l'échappée belle, parce que j'ai quand même envie d'y retourner, même pas tout de suite. Eh ben, c'est que les 2, 3 mois avant, même je pense 3 mois, faut s'y prendre 3 mois avant, il faut aller randonner Voilà, tu prends un sac à la journée, tu vas marcher, si possible, dans un terrain technique, caillouteux, parfois dans la chaleur, etc., etc., pour former tes pieds, quoi. Voilà, mon petit Séverin pour ma stratégie qui, du coup, est extrêmement simple. Alors, une petite question de Chris qui me dit: pas d'entraînement navette cette année, pourquoi? Donc, c'est vrai, Chris est très observateur. Dans mes souvenirs, en tout cas, en 2018 et en 2019, j'avais fait beaucoup de navettes. Alors, en 2018, j'en avais fait beaucoup. Parce que je n'étais pas vraiment parti l'été, j'étais beaucoup resté à Chambéry, il faisait très chaud, donc c'était compliqué de s'entraîner correctement, et quand le coach y mettait 6, 7, 8 heures, ce que je faisais en fait, c'est que j'allais à Méry, et je faisais des allers-retours dans le cavé du Malpassant qui monte jusqu'au chalet du Sire. Pourquoi je faisais ça? Parce qu'il y avait de l'ombre jusqu'à midi 13h, donc c'était relativement supportable. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de navettes en 2018. Après, pourquoi j'ai fait beaucoup de navettes en 2019? Eh bien, c'est parce que j'étais souvent à Clermont-Ferrand. Donc Clermont-Ferrand, bon, quand tu vas courir autour de la ville, voilà, en une heure, tu reviens avec 300-400 de D+. Déjà là, t'as fait un tour très très vallonné. Mais tu peux pas te taper des grosses montées, grosses descentes, ceci, cela. Et puis, j'allais pas prendre la bagnole tous les jours pour aller dans le Sancy, hein. Il y a quand même 45 minutes de route aller. 45 minutes retour, donc bon, ma conscience écologique m'empêche de faire ça. Et du coup, bah, la solution, en fait, c'était de faire des navettes pas trop loin, donc soit dans le Puy-de-Dôme, soit dans le Saint-Romain, pendant, ouais, 4 heures souvent, ouais, une fois 5, quoi. 4 heures plein soleil, déjà, t'as ton compte, hein, tu fais 3000 en navette. Donc en fait, j'avais fait ça pour m'adapter au terrain, tu vois, Chris. Et cette année, je n'en ai pas fait beaucoup, vraiment pas beaucoup, parce que j'ai préparé le Swiss Canyon Trail, donc là, j'avais pas trop besoin de faire du dénivelé. Derrière le Swiss Canyon Trail, bah, pour aller au 90 du Mont-Blanc, j'ai pas fait de réel bloc, j'ai fait des entraînements un petit peu en maintien. Et puis après ce 90 du Mont-Blanc, une fois que j'avais récupéré, je pars sur la prépa finale pour l'UTMB. J'ai été un petit peu autour de Chambéry au début. Et je passe le dernier mois à Tignes. Donc là, Tignes, si tu veux. À Chambéry, en fait, il faisait dégueulasse, donc j'allais un peu partout, comme météo. Et à Tignes, en fait, si tu veux, bah, il n'y a pas besoin de faire de navette, parce que dès que tu fais un tour, là, hop, autour, t'as pas mal de dénivelé et tout, et à chaque fois. Même, en fait, même en faisant des tours là, je suis toujours à un ratio kilomètre dénivelé qui est plus élevé qu'à l'UTMB. Donc je suis déjà dans du raid, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'en ajouter. Voilà pourquoi cette année, Chris, c'est bien vrai, je n'ai pas fait de navette. Et finalement, bah, ça fonctionne aussi. Parce que vu que j'avais un terrain très adapté, quand j'ai fait mes 13 heures de rando course, le lendemain, je n'avais pas beaucoup de courbatures. J'avais surtout une fatigue. Général, mais pas énorme de courbature. Alors, une question. Ah, je baille. De Romain Gras. Comment tu juges ton état de forme par rapport à 2018 et 2019? Alors, tu vois, Romain, si j'aurais traité ta question la semaine dernière, je t'aurais dit que. Bon, je suis plus en forme que 2018. Ça, c'est sûr et certain. Mais par rapport à 2019, je t'aurais dit que j'étais un peu en deçà. Et en fait, depuis 2-3 jours, je pense que j'ai passé un petit cap là. Et je me sens mieux que 2019. Alors peut-être, tu vois, Romain, j'ai pas une vitesse maximale qui va s'approcher de celle de 2019. 2019, j'arrivais à faire des belles pointes de vitesse, tout ça, tout ça. Là, peut-être j'y arrive moins. Par contre, derrière, j'ai une solidité, une régularité qui est, je pense, au-dessus. Voilà. Et on va en parler avec une autre question tout à l'heure. Les effets de l'altitude commencent à se faire sentir. Et là, pendant les 2 prochaines semaines, la courbe, elle va devenir exponentielle, exactement comme les infections du coronavirus en France. Sauf que là, c'est super cool parce que ça va améliorer mes performances physiques. Donc, Romain, normalement, Je pense, après je peux me tromper, hein, c'est toujours dur d'avoir son propre ressenti. Je pense que cette année je suis bien meilleur qu'en 2019. Et en plus, par rapport à 2019, j'ai beaucoup moins de trajets avant la course. Enfin, ouais, j'en ai un peu moins. Un peu moins de trajets, des animations qui sont un peu moins loin. Donc c'est pas mal. Je pense que j'aurai une meilleure récupération. Alors après une question, tiens, bah on va enchaîner avec celle de l'altitude. Qui c'est qui me l'avait posée? C'est Laurent. C'est Laurent, tu commences à sentir les effets de l'altitude. Alors, je vais te répondre tout de suite, Laurent, je vais juste me chercher à boire. Voilà. Une petite eau citronnée. Ah, je prendrai ma bière de récup après mon gainage tout à l'heure. Donc Laurent me demande si je commence à ressentir les effets de l'altitude. Eh bien oui, depuis mardi. En fait, il y a beaucoup de gens qui font des stages en altitude, mais tu sais, ils te balancent le mot comme ça, puis finalement derrière ça veut rien dire, il n'y a aucune science, on ne sait pas quelles conditions physiques ils avaient avant, après, enfin, comme ça, on sait rien. En fait, juste les mecs partent en vacances à la montagne, hein, c'est plus ça que ça veut dire. Les effets de l'altitude, tu peux pas les ressentir avant 2 semaines. Et moi, je les ai sentis au bout du 16e jour, mardi. Comment je les ai sentis? Je suis parti courir. Et en fait, pour la première fois, je partais pour une rando courte, donc je pars toujours à peu près à la même allure. Et pour la première fois, je me suis mis à trottiner sur les faux plats montants, etc. Enfin, quand je te parle des faux plats montants, c'est 10-15%. Et naturellement, tu vois, sans y penser, je me suis dit, ah, putain, mais merde, mais attends, mais je suis en train de courir là, d'habitude, je marche ici et tout. Parce que j'étais à l'aise, quoi, j'étais à l'aise. Et pourtant, la veille, hein, la veille, 11 heures de vélo, l'avant-veille, marathrail, en course. Donc, j'avais aucune raison d'être bien physiquement. Et bah si, voilà, j'ai senti des effets de l'altitude, voilà, au bout de 16 jours. Et le gars qui me fait l'altitude me dit, bah voilà, maintenant, les effets, ils vont augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à la troisième semaine. Et à partir de la troisième semaine, ils vont augmenter de manière exponentielle. Et c'est pour ça que je reste 4 semaines, c'est pour vraiment devenir un tueur. Et on verra ça sur la prise de sang, mercredi 25 août. Donc si vous voulez faire un stage en altitude, c'est très simple. Il faut rester. Si vous voulez des bénéfices, il faut rester 3 semaines à une altitude au-dessus de 2000 mètres. Bon, peut-être que si vous êtes à 1800 mètres, ça marche aussi, voilà. Mais c'est plutôt au-dessus de 2000. Voilà, donc. Bon, je sais pas, ici autour de nous, comme station, bah, vous avez Tignes, hein, bien sûr, où je suis. Vous avez les Arcs 2000, alors par contre, c'est pas du tout. J'y suis allé en vélo. C'est pas du tout le même plaisir, à mon avis, d'y rester un mois. Bon, voilà, vous avez. Val d'Isère est à 1800, par exemple, donc c'est un petit peu embêtant. La Rosière est à 1850. Les Saisies, 1600. Donc, bon, là, c'est assez râpé. Voilà. Et vous avez des gens hein, qui vont vous dire que non, mais c'est bien, telle station, patati, patata, qui va être à 1700. Et répondez-lui, bon bah d'accord, bah montre-moi une prise de sang avant, montre-moi une prise de sang après, et prouve-moi que t'as eu des bénéfices. Puis en fait, vu que personne ne le fait, bah c'est juste du blabla, quoi. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce qui marche? Bah c'est ce que je viens de te raconter. Et bah tu t'entraînes autour, hein, bien sûr. Tu vis en haut, tu t'entraînes en haut, comme ça tu passes tout ton temps au-dessus de 1000, et c'est là que ta production de globules elle est la meilleure, quoi. Et enfin, Laurent me demande si ça se sent sur la récup, l'altitude. Eh bien, oui. Alors, c'est pour ça que le mec qui me gère au niveau de l'altitude a un droit de regard sur mon plan d'entraînement, parce que il faut l'adapter. Donc, quand je. Là, je vais avoir la suite là, pour les 15 derniers jours. Et il faudra peut-être retoucher certaines choses parce que, ben, en fait, quand tu es en altitude, un entraînement te demande un petit peu plus de temps de récupération. Et là, on arrive dans un moment clé, hein, à 2 semaines de l'UTMB, il n'y a plus aucune qualité physiologique à développer. on est simplement sur de l'entretien pour essayer de ne rien perdre, des acquis, et du repos pour arriver le plus frais mentalement, physiquement possible. Donc à ce moment-là, en fait, la période d'affûtage classique, visualisée par mon entraîneur, va devoir être légèrement plus adaptée parce que je suis en altitude et un entraînement d'une heure me coûte autant qu'un entraînement d'une heure et demie, par exemple. Bon, c'est grossier hein, comme trait, mais c'est pour que tu comprennes. Donc oui, effectivement, il faut le prendre en compte. Alors, c'est toujours très dur à quantifier, mais c'est il faut y penser quoi. Tu peux pas, par exemple, quelqu'un qui a toujours les mêmes semaines, enfin à peu près, il peut pas venir un mois en altitude et se dire ah bah je m'entraîne comme le mois passé. Bon, bah, s'il fait ça, ça va pas marcher. Il va peut-être pas aller dans le mur, mais il va pas progresser parce qu'il va être très fatigué. Donc faut faire attention. Une autre question de Damien qui me demande quel est mon objectif sur l'UTMB, puisque il a démarré une petite préparation mentale, et en prépa mentale, on aime bien te demander de définir un objectif pour faire différentes stratégies, voilà, pour y arriver. Je rappelle que sur Patreon, on va reprendre les articles prépa mentale. Bah, dès que l'UTMB sera fini, hein, en gros. Donc, Damien, en fait, pour rigoler, je lui ai répondu que mon objectif était de gagner. Mais écoute, c'est pas faux, hein, Damien. Bon, je vais pas gagner. Ou alors, je serai quand même très surpris. Mais, néanmoins, je viens pas pour faire un top 50. Tu vois, ça m'intéresse pas. Je viens pas pour. Voilà, je viens pas pour être finisher à l'UTMB, j'en ai rien à foutre. Être finisher à l'UTMB, enfin, tu vois, je peux le faire demain si ça me chante. C'est rien, ça. Donc, je viens pour un réel objectif compétitif. Après, en termes de place, c'est toujours dur à dire. Parce qu'il y a une densité qui est énorme. Là, au départ, il faut que je compte, mais je crois que j'ai la 70e Cotitra. Vous pouvez aller consulter ça sur le site de l'UTMB. Vous cliquez sur les coureurs. Là, vous avez un onglet les favoris et il vous suffit d'ouvrir UTMB Homme. Et vous allez voir, c'est bien rempli. Donc mon objectif, par contre, Damien, c'est un plan de déplacement qui va m'amener à peut-être faire moins de 23 heures sur la ligne d'arrivée. Après, combien il y aura de personnes devant moi? Ben, ça va être dur à dire. Alors, normalement, moins de 23 heures, t'es dans le top 10. Mais, ben, peut-être cette année, il n'y en a pas beaucoup qui vont bâcher. Peut-être cette année, il y en a beaucoup qui vont bâcher. Quelle va être la météo? Patati, patata. Alors, la météo va jouer aussi sur mon temps de course. Mais néanmoins, en supposant une météo convenable, donc pas de canicule, pas de grosse pluie, pas de neige, évidemment. En supposant une météo convenable, j'ai dressé un plan de marche en me basant sur mes temps de passage de 2019 et 2018. Quand je voyais à quelle heure je passais à tel ravito, je me disais, attends, pourquoi je suis passé à telle heure à tel ravito? Ah putain, mais j'ai fait ça, mais oui, mais ça c'était une connerie, j'aurais pu gagner 2 minutes, etc. Ou alors, ah ouais, non, mais attends, là j'étais allé quand même assez vite, donc je vais peut-être pas pouvoir gagner de temps, on va garder le même timing. Donc je pense que là, mon plan de déplacement, il a été pas mal affiné, ça va pas trop partir en couille. Alors évidemment, on sera à passer la mi-course à plus ou moins une demi-heure, hein, facilement. Bon, ça reste de l'ultra-trail. Hein. Le jour où tu veux maîtriser, tu vas découvrir qu'en fait, tu peux pas. Mais c'est pas mal, parce que bon, 2018, j'étais baisé, hein, je me suis basé juste sur des temps de passage de mecs comme ça. 2019, j'avais affiné tout ça. Mais après, j'avais eu des soucis pendant la course. Et là, bah, 2021, je me base sur les deux expériences passées. Donc, c'est pas trop mal. Je suis assez fier de moi là pour mes estimations entre chaque ravitaillement. Donc, voilà, Damien. L'objectif, c'est de rentrer dans ce fameux top 10. Mais ça dépend. Alors, évidemment, ça dépend de moi. Parce que si je mets 20 heures, bon, bah, j'y serai. Hein. Mais bon, ça, c'est peut-être pas trop possible. Si je mets 23 heures, tu vois, ça va peut-être un petit peu dépendre des autres, en fait. Qui abandonne, qui lâche, etc. Donc, à voir. À voir. J'ai un objectif de place, mais je sais qu'il dépend pas que de moi. et j'ai un objectif chronométrique. Là, par contre, ça dépend de moi, donc ce sera imprimé sur des petits bouts de feuilles plastifiés que j'aurai dans mes poches pour que je regarde à chaque ravito si je suis un petit peu en avance, un petit peu en retard, s'il y a un problème, etc. Voilà, Damien, comment je vais faire. Donc là, en fait, pendant 2 semaines, si on veut vraiment parler prépa mentale, puisque finalement, c'est ce que tu es en train de faire, eh ben, je ressasse encore et encore la compétition, le ravitaillement, le kilométrage, qu'est-ce que je fais à ce ravitaillement, patati, patata. Alors après, au cas où j'oublie, je vais tout écrire sur des feuilles, mais tu vois, constamment, je vais regarder, ah oui, là, je fais ça, ah oui, ok, ah putain, oui, là, il y a ça, etc., etc. Donc en fait, pendant 2 semaines, je vais vraiment être dans ma bulle, quoi. Enfin, pas dans ma bulle, parce que, tu vois, ce week-end, je vais animer le Team Try, on va parler d'autre chose. Mais régulièrement, je vais me recoller un petit peu au plan de marche de l'UTMB pour suivre, justement, mon objectif de 23 heures. Et en fait, je me le serais tellement répété que mon cerveau va être... Ça, c'est peut-être une croyance personnelle. Hein. Mais je me serais tellement répété que je vais passer à tel ravito à telle heure que tant que j'ai pas un gros souci, à mon avis, le corps, il va suivre, tu vois, un petit peu. Après, évidemment, si d'un coup, je prends une fringale, le corps, il aura beau vouloir suivre, ça va pas le faire. C'est un peu comme... tu sais ce qu'on dit, là, c'est... On t'encourage à la vaccination, et donc plus on te le répète, plus tu vas te dire que oui, c'est normal et il faut le faire. Mais au final, les arguments restent les mêmes que ceux du mois dernier, en fait. Donc, je suis ni pour ni contre, mais juste, je vois que depuis un mois, quand même, ça tambourine pas mal. Alors que finalement, les bases scientifiques sont toujours les mêmes, hein, elles ont pas changé. Et bah là, c'est pareil, mon cerveau, je vais lui tambouriner matin et soir qu'on va faire ça en 23 heures, bordel de merde. Et qu'à Courmayeur, on y passera à... Qu'est-ce que j'ai mis? À 3 ou 4 heures du mat? Je sais plus. 10 heures de course, Courmayeur, j'ai mis. Voilà, quoi. Allez, ça fait un petit moment. Ouais, les deux, trois autres questions. Et puis après, j'en garde pour demain. Allez, je réponds à une question de Mathis, et après, je garde les autres pour demain. Mathis me parle de la logistique UTMB en tant que coureur. Il a plusieurs questions au niveau des navettes pour les accompagnateurs. Tu vois, il me demande comment je fais, parce que donc Mathis, qui a fait 16 600 mètres de dénivelé, je crois, dans son record de 24 heures début juin, va faire l'UTMB, donc il est très prometteur. On va même sans doute passer un long moment ensemble, c'est très possible. Alors, il me demande pour les navettes accompagnateurs, est-ce que ça vaut le coup? Oui, Mathis, ça vaut le coup, hein, franchement. Déjà, au Contamine, sache que si tu veux te faire ravitailler au Contamine, la route, elle est fermée. Donc, tous ceux qui veulent se rendre en bagnole au Contamine, bon, après, il y a toujours un petit malin qui trouve comment détourner le truc et tout, mais normalement, la route, elle est fermée. Donc, il faut prendre le petit ticket pour la navette. Pourquoi la route, elle est fermée? En fait, c'est simple à comprendre, il y a trop de bagnoles. Donc, on ferme la route, parce que sinon, les bagnoles font un bouchon, elles se coincent, et voilà, c'est juste pas possible. Donc la route, elle est fermée, il y a une navette UTMB qui passe, et voilà, c'est très bien. Ça, c'est ce que fera ma mère, et mon père, parce que elle va ravitailler mon frère aussi. Petit bracelet, hop, navette, et ils nous ravitaillent à Courmayeur, ils reviennent avec la navette à Cham. Là-dessus, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment un petit peu, sur Chamonix, parce qu'en 2018, en fait, ils ont essayé d'aller me voir passer au Chapieux. Ils y sont arrivés, mais il faut conduire quand même très très vite. Et ça sert à rien de te voir au Chapieux à part faire « Bravo, allez !» Enfin, c'est sympa, mais ils peuvent pas te ravitailler, en fait. Au Chapieux, l'assistance est interdite. Donc, plutôt que de cramer ton... Parce que l'assistance, attention, c'est une mission. Plutôt que de cramer ton assistance en les faisant faire... Et puis pour aller au Chapieux, c'est que de la route de montagne. Hein, c'est un truc de dingue. Et puis après, des Chapieux, faut aller à Courmayeur. Là, pareil, tu te retapes le petit Saint-Bernard. Enfin, c'est la folie hein, sur la route. Donc plutôt de les contraindre à de la fatigue à cause du manque de sommeil et de la route, après avoir ravitaillé au Contamine, ça revient à Chamonix, ça fait 2-3 heures de sieste, et ça part via le tunnel du Mont-Blanc, ravitaillé à Courmayeur. Après, à Courmayeur, en fait, là, par contre, ils sont un peu baisés, ils sont obligés de suivre la course. Donc, ils vont se taper le Grand Saint-Bernard. Ça, c'est une mission, hein. Courmayeur, tu descends à Aoste. À Aoste, tu montes le Grand Saint-Bernard. Tu descends le Grand Saint-Bernard. T'arrives. Je sais plus si t'arrives à la Foulie. Non, je crois que t'arrives à un croisement. Et alors, bon, ce qu'ils font, parce que là, ils sont surmotivés, ils remontent à la Foulie. Puisque à la Foulie, t'as le lever de soleil. Ton coureur, tu sais pas trop. Voilà, tu viens le voir passer à la Foulie, mais t'as pas le droit de le ravitailler. Et après, ils vont en voiture à Champais. Et là, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus facile. De Champais, ils vont en voiture à Trian. Et de Trian, ils vont en voiture à Valorcine. Et de Valorcine, ils vont en voiture à l'arrivée. Alors, ouais. Champais, Trian, Valorcine, Courmayeur. Aucun souci pour se garer pas très loin du ravito. Je parle pour moi qui arrive dans le top 30. Derrière, je sais pas, à mon avis, c'est la foire. À mon avis, derrière, c'est la foire. Donc Matisse, pour toi, je dirais que tu peux adopter tout à fait la même stratégie, puisqu'à mon avis, tu vas viser plus ou moins les mêmes temps de course, à 1 ou 2 heures près peut-être, mais voilà, tu vas viser, je sais pas moi, peut-être 24 heures. Donc, ce sera à peu près pareil. Ta famille, enfin ceux qui vont te ravitailler, trouveront facilement de la place pour se garer et ne seront pas bouchonnés sur la route. Donc tu peux opter pour la même stratégie que moi. Maintenant, quelqu'un qui va finir, je sais pas moi, 500e, à mon avis, pour pas que t'aies une mauvaise surprise au ravito, si tu es dans le milieu du peloton, il faut que tu foutes ton assistance dans les navettes UTMB. Et t'as un ticket qui fait toutes les navettes et t'es peinard. Au moins la navette, tu sais qu'elle arrive à telle heure. S'il y a des contrôles sur la route, hein, je pense à la frontière suisse, bah oui, parce qu'avec le Covid, ça peut-être être relou, tu vois. La navette, elle est prioritaire, etc., etc. Donc si vous êtes dans le gros du peloton, mieux vaut prendre la sécurité et opter pour la navette. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, la navette, ça coûte 30 balles et tout. Ouais, enfin, tu crois que c'est gratuit, une bagnole qui fait 200 bornes autour du Mont-Blanc? L'essence, l'usure des pneus, plaquettes de frein, tout ça, c'est offert par la maison. Donc voilà. Je pense que la navette, c'est vraiment bien. Et comme tu peux le voir, bah, je l'utilise au début, plutôt par contrainte, mais au final. En fait, au final, vu qu'il y a aussi du public au Contamine, tu sais, les gens viennent juste pour voir, tu peux de toute manière pas te garer, enfin, à Saint-Gervais non plus. Donc, pour moi, c'est navette au début. Et après, il y a, enfin, Courmayeur, tout ça, il n'y a pas vraiment de public, donc là, tu peux te garer. Enfin, il y a quelques personnes, c'est pas fou. Après, Mathis me demande comment se passe le retrait du Dossard. Bah écoute, ça se passe très mal chaque année. Les 2 fois où j'y suis allé, bah, j'y suis resté 1 bonne heure. Pense bien à amener du matériel obligatoire extrêmement safe, même si tu ne le prends pas avec toi le jour de la course, on s'en branle. Il faut faire plaisir aux bénévoles qui te contrôlent. Donc, t'amènes un gros pull, une grosse veste, tout ce qu'il faut pour lui faire plaisir, pour que ça aille vite. Et tu verras, bah. Ouais, moi j'y ai toujours passé au moins 1 heure, c'est long. Là en plus, cette année, avec les contrôles du pass sanitaire, il est possible qu'on prenne un petit x2 dans la gueule, en termes de temps. Eh oui, bah oui, c'est ça la réalité du terrain, mon petit Emmanuel Macron. C'est long, c'est pénible, tout le monde n'a pas un QR code. Alors pire que ça! Hier, un ami en terrasse, son QR code ne fonctionne pas. Alors qu'il est doublement vacciné, tu vois. Donc, voilà quoi, hein, la technologie, tout ça, c'est joli, hein. Ça, pour se pignoler dans un bureau, il y a du monde, hein, mais derrière, pour faire appliquer des choses concrètes et utiles sur le terrain, alors là, ça part parler un petit peu chinois en brasse coulée, on a perdu tout le monde, là. Donc, ouais, le retrait des dossards, Matisse, ça va être super long. Il me demande si on peut se garer. Oh putain, le con. Alors sachez-le, pendant la semaine de l'UTMB, vous ne pouvez pas utiliser votre voiture dans Chamonix. C'est impossible. C'est impossible. C'est bouché partout. Les gens se garent partout et c'est de pire en pire chaque année. Donc, vous oubliez la voiture. Vous l'oubliez. Au mieux du mieux, vous garez aux ouches et vous vous démerdez après. Alors il y a toujours un petit malin qui va me dire que non, que ça passe bien, qu'il a trouvé une place, ceci, cela. Oui, ça s'appelle la chance. Ouais, le mieux, tu vois, c'est une petite trottinette, un petit vélo, voilà, tu l'accroches à un lampadaire, tout ça. Mais ouais, donc tu peux pas du tout circuler dans Chamonix en voiture. La ligne de départ, il me demande pour les gens à quelle heure faut y aller. Oh, j'en sais rien. Pour un départ à 18h, je crois que à 16h, il y a déjà quasiment tout le monde. Et après, nous, en tant que élite, on a un sas devant qui nous est réservé. Ce qui est normal. Je vais pas partir au fond du peloton alors que je vais courir à 16 km/h. Donc, tu peux venir à peu près quand tu veux. C'est demandé de venir au moins une demi-heure avant. Mais moi, les 2 dernières années, je suis arrivé 10 minutes avant. Parce que j'étais au bar. Et oui, c'est vrai qu'il y avait déjà tout le monde. Ouais, non, mais tu viens 20 minutes avant, puis tout le monde est content. Ça suffit. Alors, c'est très dommage, j'en ai parlé avec un là qui est chez Lifetrail et qui, bien sûr, œuvre tout au long de la semaine sur l'UTMB. Et je lui disais, mais tu vois, c'est pas mal ce système de SAS pour nous, élite, devant. Mais en fait, il faudrait le mettre pour tout le monde. Tu vois, il faudrait faire des SAS. Bah, je sais pas, peut-être des SAS de 200 ou 300 personnes. Comme ça, bah, le coureur, il sait dans quel SAS il est. Donc, bah, le coureur lambda peut lui aussi venir une demi-heure avant le départ. Tu vois le truc? Parce qu'il arrive, il y a son SAS. Devant son SAS, bah, tu fous un bénévole qui a rien le dossard. Hein, c'est quand même pas très compliqué. Et voilà, il passe. Alors après, c'est vrai que le peloton est quand même relativement gros sur l'UTMB. Et du coup, il faudrait barriérer tout le triangle de l'amitié. Et en fait, vu que les coureurs, ils font un gros pâté là, il faudrait barriérer en faisant un petit serpentin pour que ce soit propre et pouvoir faire des entrées de sas. Et bon, cette année, ce sera pas fait. Mais tu vois, j'ai lancé un peu l'idée. Je lui ai dit, putain, tu vois, faudrait quand même y penser. À mon avis, ce serait pas mal. Les gens apprécieraient, tu vois, plutôt que de venir 3 heures avant. Bah, surtout s'il pleut. Alors, je t'explique même pas le merdier. Donc, on pourrait, en fait, c'est ce qui se passe en VTT cross-country quand je faisais des compétitions en 2010. T'arrivais 5 minutes avant sur la ligne de départ. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, on était rangés par ligne. Nous, c'était des lignes. C'était même pas des sas de départ. C'était des lignes. Limite, t'avais ta place sur la ligne. Alors en fait, des fois, on venait un peu avant parce qu'il valait mieux partir à gauche ou à droite, tu vois, suivant le virage qu'allait suivre. Mais on était aligné par rangée de 10, en fait. Il y avait des barrières, des rubalises, et du coup, c'était hyper facile. Donc voilà mon petit Matisse. Matisse me demande si je laisse un sac à Courmayeur, parce que sur l'UTMB et sur de nombreux autres ultras, tu peux donner un petit sac assistance, tu vois. Je sais plus où est-ce que tu peux l'avoir, mais je crois que tu l'as au Contamine, Courmayeur, Champeuf, tu l'as assez souvent à hein, l'UTMB. Mais non, Mathis, moi à Courmayeur, il y aura mon assistance, alors qui est en fait ma maman, il hein, n'y a rien de prodigieux, ou ma copine, ou mon père, ou peu importe. Et non, ils seront pas bouchonnés en fait, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont pas bouchonnés, parce que ça fait 2 ans que j'arrive dans les 25 premiers à Courmayeur, donc non, ils seront pas bouchonnés. Donc il y aura pas de souci. Et par contre, bah ouais, pour ceux qui ont peur d'être bouchonnés, qui prennent pas la navette, etc., ou qui ont une assistance, qui voient que faire Courmayeur en fait c'est vraiment chiant. À la limite, tu vois, l'assistance c'est pas mal. Pour avoir si t'as une assistance un peu feignante qui veut dormir la nuit. Elle peut te faire contamine avec la navette. Elle revient, elle fait dodo à Chamonix. Et le lendemain, elle te fait Champey, Trian, Valorcine. Toi, hop, t'as mis ton sac de délestage à Courmayeur, donc t'es autonome. Impeccable. Mais non, moi je pourrais, parce que tu vois, à Courmayeur, finalement, dans mon sac de délestage, bah, je mets mes chaussures, je mets 2 flasques, je mets mes barres, et puis roule ma poule, tu vois, c'est limite équivalent à avoir une assistance personnelle, mais c'est aussi eux qui veulent voir la course en fait. Ils sont passionnés, tu vois aussi. Donc voilà mon option à moi. Après, bon, écoute, Mathis, choisis celle que tu veux. Tu peux aussi économiser un peu ton assistance, les faire dormir plus longtemps, etc. C'est aussi à eux de voir, tu vois, parce que c'est eux qui vont vivre le truc. Donc c'est à eux de te dire, ouais, putain, là, je suis chaud, je viens et tout. Ou ouais, putain, non, t'es gentil, putain, on va être cramé et tout après. Donc ça, c'est à toi de voir. Voilà, écoute, je vous laisse tous ici. J'ai encore de bonnes questions, ouais, pour demain. Puisque demain, le programme sportif est exactement le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire on privilégie le repos, la récupération des bons repas. Là, je vais me faire cuire des petites courgettes. Voilà, énormément de légumes. Mais je vais continuer aussi à manger beaucoup. On aura d'ailleurs demain une petite question alimentation avec Tanguy. Mais voilà, j'en garde quelques-unes. Pour demain, si vous en avez d'autres, vous les posez bien sûr, ce sera un plaisir. On se retrouve donc demain. Je pense que j'enregistrerai à peu près pareil dans la matinée, le podcast, voilà, tranquillement. Bonne journée à tous et à demain. Salut.